18h-19h. C'est 100% taillade sur France Bleu Héros.
Du foot avec Bertrand Connotte, 100% paillade. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. 100% paillade et 100% finale. Une de plus ce dimanche, cette fois contre Strasbourg, le Racing à la Mosson, à la maison, dans un match à qui tout double. Bonsoir Benjamin Psaume.
Salut Bébert, salut à tous.
Consultant foot de France Bleu Héros, Jean-Bernard Stern à tes côtés. Ouais. On est heureux de retrouver.
Bonjour et voilà, je voudrais dédier cette émission à Joël, voilà, en guise d'hommage. Oui.
Et ben nous aussi, on la dédie à Joël, à qui on pense très fort depuis plusieurs jours, JB. Baptiste également, supporter de la paillade. Bonsoir Baptiste.
Et bonsoir tout le monde.
Au menu ce soir, messieurs, on va pas traîner parce qu'on a des choses à dire. La clé du match de Benjamin Psaume, évidemment. La défense aussi, avec ou sans Fala et Sakho. Vous nous direz ce que vous en pensez, ce que vous espérez. L'épaule également de Tamari, le dossier Wahbi Khazri, les questions à la conférence de presse de Michel Derzakarian ce matin, mais aussi, Salah l'a dit, un long format avec le joueur du mois, Issa Gassila, joueur du mois au MHSC. Ses parents, les critiques, la CAN, le maintien, l'homme aux 250 matchs de Ligue 1, se confie, il a atteint cette barre le week-end dernier à Marseille au Vélodrome. Ah, et puis des places aussi, 4 au total pour dimanche à 15h, elles sont à gagner d'ici 19h, 4 places pour assister à ce très important Montpellier Racing Club de Strasbourg.
100% paillade sur France Bleu Héros. 100% paillade sur France Bleu Héros. La clé du match.
Vous souhaitez intervenir, vous le faites avec le hashtag Bleu Paillade, évidemment. Vous connaissez la formule sur Twitter, X, comme on l'appelle désormais. 04 67 58 6000 également avec Amandine au standard. Et c'est Mathieu Casanas, Mathieu, qui réalise ce 100% Paillade. La clé du match, donc, Benjamin Psaume face à Strasbourg. Voilà, quelle est cette clé, vous, le serrurier de 100% Paillade?
Amusez pas.
Passe partout.
Ouais. Ben, je vais aujourd'hui, je vais t'en mettre deux, je vais t'en mettre une.
Doucement quand même, calmez-vous.
Calme-toi.
Hein. Oh là là,
l'esprit. Un aller-retour.
Je vais en mettre deux. Je vais en mettre une un petit peu plus globale qui va influer sur le mental. Donc, ma première, c'est la gestion des émotions. Puisqu'on en a parlé, on arrive dans les matchs de Money Time. Tu l'as dit, c'est une finale encore. Qu'on avait plutôt bien négocié contre Metz dans la gestion des émotions. Mais là, ça va être la même chose parce que de ce que je vois de cette équipe, de ce que j'ai vu à Marseille et depuis le début de saison, j'ai pas mal de craintes et de réticences sur l'aspect émotionnel de notre équipe. À savoir, on peut alterner le très bon et le très mauvais à la fois sur un week-end suivant l'autre ou à la fois dans le même match. Et là, ce que j'ai un peu peur, c'est que l'enjeu prenne le pas sur le jeu et qu'on soit un petit peu inhibé et qu'on ne se lâche pas comme il faudrait. Et j'ai peur aussi, si jamais ça se passe mal, parce qu'on va en parler Bertrand, mais c'est pas Metz qu'on reçoit pour moi, c'est une équipe d'un bien autre calibre qu'on va recevoir, que si jamais malheureusement on démarre mal, on encaisse, j'ai peur que notre équipe plonge. Donc la gestion des émotions dans les finales, parce qu'on peut dire que c'est une finale aussi, comme les autres quand on les recevra, et la pression, avec ce qui s'est passé également à Marseille où on s'est écroulé totalement alors qu'on menait là-bas et eux ils étaient dans un contexte hostile, c'est la première chose, c'est comment on va gérer émotionnellement ce match-là et ce qui va se passer à l'intérieur du même match, puisqu'on l'avait évoqué, Michel Derzakarian n'arrive pas forcément pendant les matchs à faire passer son discours et son envie de jeu. La deuxième chose, c'est un truc un petit peu plus technique, c'est un petit peu plus positif pour moi parce que je revois une chose qui me plaît, c'est du basique, c'est les coups de pied arrêtés. Parce que pour moi, des matchs comme ça au couteau très serré, bah, je pense que ça va être un match serré, moi, contre Strasbourg, ça va être du beaucoup de combats, ça peut se jouer sur un coup de pied arrêté, un coup franc, un corner. Et il y a une chose qui est arrivée au MHSC dans le recrutement qui est très bien, alors on peut parler de tout, mais pour moi, c'est l'arrivée de Modibo Sagnan. Parce que Modibo Sagnan excelle pour moi sur des coups de pied arrêtés offensifs. Je le trouve très intéressant. Il avait marqué la dernière fois, mais contre Marseille, par exemple, sur tous les corners, TJ a retrouvé la patte. Il varie un petit peu plus le premier et le deuxième. Et on a été dangereux sur tous les corners et tous les coups francs à Marseille. On a failli marquer avec les fameux poteaux. Mais voilà. Et je pense que dans un match comme ça, si on les gère bien, que Sagnan coupe bien au premier, ça peut être l'une des clés du match. Ça peut se finir à 1-0 sur un coup de pied arrêté vers la 75e, 80e. Donc voilà. Il y a l'aspect émotionnel qui est une clé du match. Comment on va gérer la pression et les émotions pendant le match, et le coup de pied arrêté qui, je pense, peut être la clé qui peut débloquer le match.
100% paillade sur France Bleu Héros. Benjamin Psaume, Bertrand Queneut.
Bon, la clé du match de Benjamin Psaume, intéressante, évidemment.
C'était un trousseau.
Des fois, j'en mets deux, trois.
Très intéressant.
très intéressant comme toujours, Benjamin Psaume. On va regarder le classement, si vous le voulez bien, pour démarrer cette émission. Vous réagissez évidemment, si vous le souhaitez aussi, à ce que vient de dire Benjamin. Faut déjà évidemment penser à jouer ce match-là. Mais au classement, la conséquence peut être énorme. C'est l'une des grosses finales à disputer d'ici la fin du championnat. Pourquoi ? Parce que Montpellier est aujourd'hui 15e, première place de non-barragiste, juste devant Lorient, avec 22 points, le même nombre que les Merlus. Le Havre est juste devant avec 24 unités. Ensuite, il y a donc les Strasbourgeois et les Nantais avec 25 points. Parmi ces équipes-là, Montpellier possède la moins pire différence de but avec le Havre, moins 6. Les autres sont à moins 12, moins 11, moins 13. Donc ça, évidemment, même si elle a été un peu plombée au Vélodrome, ça peut évidemment compter. Le Havre va affronter Brest, qui est une équipe en pleine bourre, alors que Lorient va à Rennes et que Nantes et Metz s'affrontent. Un vrai gros coup à jouer ce week-end. JB,
clairement. JB. De toute façon, Montpellier n'a plus le droit de perdre à la Mosson, ça c'est une évidence. Dans la situation donc où se trouvent les joueurs, le contraire serait une faute professionnelle, et Dieu sait s'ils en ont fait depuis le début de la saison. Et c'est vrai que là, pour l'instant, le calendrier pour cette journée à venir est favorable. Ça ne sera pas forcément donc le cas les semaines suivantes, avec un déplacement à Nice, la réception de Paris Saint-Germain et un déplacement au Havre qui va valoir aussi son pesant de cacahuètes. Donc le match à gagner, c'est celui-là. On avait dit de même contre Metz, ils l'ont gagné, à mon avis, ils ont eu une réaction comme s'ils avaient gagné la Coupe de France, alors qu'ils n'étaient vraiment qu'à la moitié du chemin, et encore, pas la moitié. J'espère que contre Strasbourg, ils pourront lever les bras, mais qu'ils seront peut-être plus humbles à célébrer une victoire que l'on attend et que l'on doit avoir. Il en va de la survie du club, même si je pense, et tu as parlé de la différence de but, que je suis convaincu que Montpellier ne descendra pas, mais attention, il y a danger, c'est sûr.
Il y a 11 finales à jouer, Baptiste, mais il y a des finales qui sont a priori plus importantes, ou en tout cas plus à notre portée. Celle-ci en fait partie, bien sûr, Strasbourg, même si je sais que vous n'êtes pas spécialement rassuré.
Non, je ne suis pas rassuré, évidemment, le contexte, il est pas vraiment favorable. On a du mal à enchaîner. Ceci dit, je regardais un petit peu les 5 derniers matchs de Strasbourg, ils ont gagné qu'un match également. Donc la dynamique de Strasbourg n'est pas incroyable. Ils ont joué en semaine en plus contre Lyon en coupe, et ils ont une élimination, donc du coup peut-être que moralement aussi, ils ont pris conscience qu'ils n'avaient plus que le maintien à jouer maintenant, et voilà, il faut aussi s'en remettre émotionnellement pour eux de ça, mais je sais que on prône encore une fois l'union sacrée jusqu'à la fin de la saison. On l'a vu contre Metz, une jolie ambiance je trouve à la Mosson, j'y étais, j'espère que dimanche on va vivre exactement le même scénario, ce serait idéal. Mais effectivement, j'ai très peur de voir le stade se retourner en cas de but encaissé rapidement. Voilà, j'espère qu'on va faire une entame aussi dynamique que contre Metz, qu'on va les presser haut et qu'on va leur mettre une grosse pression d'entrée et qu'on va avoir la réussite d'ouvrir le score d'entrée. Voilà, après, dans quel schéma, avec qui devant.
Après, ça ne garantit rien avec Montpellier d'ouvrir le score. Hein.
Oui. Non, certes, bon, mais face mieux, à une équipe qui joue aussi le maintien et qui peut être dans le dur aussi mentalement, je pense que ça peut être
ça
pas mal.
Ça sera la première équipe qui doutera, effectivement, aura peut-être un pied dans la défaite déjà.
Benji, est-ce que Strasbourg, c'est tout sauf une formalité?
Alors c'est tout sauf une formalité, parce que tu vois, je vais te dire un truc, Baptiste, qui est incroyable, c'est qu'ils se sont fait sortir au péno il y a 3 jours, et je te garantis que je pense au fond d'eux, mentalement, ça leur a fait du bien, parce que je regarde pas mal de leurs matchs, et je pense qu'ils ont fait leur meilleur match depuis, ils n'ont pas gagné en 2024, eux, et là j'ai vu les réactions après le match, franchement ils ont fait un gros match à Lyon, alors ils ont défendu, ils ont joué en 5-4-1 là, sur ce match-là, mais ils ont vraiment pas mal défendu, et il y a de la qualité qu'il n'y a pas à Metz, c'est pour ça que je disais, il y a du Gamero, il y a des bons joueurs sur les côtés, il y a de la qualité. Après moi, pour revenir sur les rencontres, bien évidemment quand on regarde les rencontres, à part pour moi Metz ou Nantes, parce qu'ils s'affrontent, personne prend des points, tu peux rajouter Nice qui joue Toulouse, alors mais Nice est moins bien, mais bon, on peut se dire qu'ils vont les taper peut-être, donc peut-être que personne ne prendrait des points, et ce qui m'intéresse c'est nous, parce qu'en fait, je pense que Strasbourg ils sont dans le sac, ils sont vraiment pas bien. Alors peut-être que ce match-là leur a fait du bien, on verra. Mais par contre, ils n'ont pas gagné en 2024. Ils ont toujours été au-dessus de la zone de flottaison, parce que ça fait pas longtemps qu'on en parle de Strasbourg qui est à la lutte dans notre championnat. À un moment donné, ils étaient à tant de points, mais comme ils n'ont pas gagné, là mentalement, je pense que si tu les tapes, tu leur passes devant. Ouais. Là, je pense que Vieira, il peut sauter. Ouais. Et surtout, mentalement, je pense que tu leur fais très très mal, parce que c'est eux qui vont prendre notre place et c'est eux qui seront limite barragistes dans l'histoire. Donc, il y a double facteur. Il y a les 3 points qui sont vitaux, on est d'accord, il n'y a pas de souci, parce qu'on en a besoin. On sait que le maintien se jouera à 30 et quelques points. Mais tu fais très très mal, comme on avait fait contre Metz. Tu fais très très mal à un adversaire direct, parce que lui, il va vraiment flipper et être barragiste. Donc, c'est deux facteurs pour ce match-là.
Après, moi, ce qui me frustre un petit peu cette saison, clairement, c'est de ne pas pouvoir enchaîner. d'un match à l'autre avec la même, le même 11, la même compo. Ouais. Voilà, c'est encore du bricolage à Marseille avec Falaï dans l'axe. On a encore Omer Hajik qui n'est pas disponible et Julien également. On sait quand même que c'est deux joueurs très intelligents et très intéressants pour la stabilité, pour la relance, pour le calme, pour l'émotion, pour la gestion de ces matchs un petit peu compliqués émotionnellement. Et voilà, et là encore ce week-end, on va encore bricoler. On sait que Tamari a l'épaule un peu abîmée. Il y a plein de facteurs qui font que ben, potentiellement. Encore,
qui jouent en défaveur de Montpellier.
Voilà, tu vas être peut-être amené à encore à devoir changer.
Oui, mais c'est un petit peu le parcours de Montpellier depuis le début de la saison. Tu n'as aucune garantie, aucune certitude, non seulement sur la composition d'équipe et sur le style de jeu. Tu crois avoir trouvé quelque chose, regarde la défense à 5, tu dis c'est bon, allez, hop, on a stabilisé le tout. Et puis finalement, la semaine d'après, tu vois que tout est foutu en l'air. Par un changement de système, et comme on a vu, de 5 qui marchait bien, on repasse à 4. On n'a aucune certitude. Donc pour faire des pronostics, bonjour. Hein.
Le week-end dernier, Nordin, en zone mixte, Benjamin nous a dit qu'il allait jouer et que le groupe allait jouer quitte à crever. Ce sont ses mots. On attend évidemment des actes. Personne n'accepterait après des propos pareils que le MHSC passe à côté de son match aussi. Au-delà du résultat, on a envie d'un contenu, d'une attitude sur cette rencontre-là, d'une attitude sur 90 minutes et plus si affinité. Question posée ce matin en conférence de presse à Michel Derzakarian, c'était d'entrée. J'étais pas à cette conf de presse parce qu'on faisait Scylla pendant ce temps-là, mais écoutez la réponse de Michel Derzakarian recueillie par les confrères. Il était interrogé, le coach, sur ce double visage héraulté d'un dimanche à l'autre, c'est-à-dire une équipe qui, montre qu'elle joue sa survie face à Metz et qui ne montre quasiment plus rien face à l'Olympique de Marseille. La question, c'était, est-ce que ça vous surprend, Michel Derzakarian ?
Non. Non, parce que ça nous est arrivé plusieurs fois déjà. Je peux pas te le dire, hein. C'est pour moi qui... Je suis pas joueur, je suis pas avec eux sur le terrain. Quand t'es joueur, tu t'appropries le match, tu joues, c'est toi qui joues. Quand t'es coach, tu essaies de faire transpirer des trucs, mais après, c'est pas toi qui joues, c'est les joueurs qui jouent. Si tu veux être performant, il faut que toute l'équipe vive son match et qu'on essaie de jouer la même partition, parce que sinon on peut pas être bon. On subit, des fois on subit les événements, comme vous, comme tout le monde. Des fois en bien, des fois en mal.
Voilà, pour Michel Derzakarian, qui dit parfois subir les événements. Michel Derzakarian, tient juste encore 15 secondes de lui, qui espère quand même que le match face à Metz, au moins à domicile, a servi de déclic.
J'espère que oui, j'espère que ça va donner la confiance de regagner à domicile pour être en capacité de le refaire sur les matchs qui nous restent à la maison.
Votre réaction, messieurs, au propos du coach. Alors, c'est un extrait, hein. Il y a une conf qui fait une dizaine de minutes.
Bon, moi, ça veut dire clairement que Michel Derzakarian, il dit, il dit clairement que c'est la faute des joueurs, quoi. Lui fait son boulot, mais les joueurs ne le font pas. Donc, ça revient à ce que disait Benji lundi dernier, quand il disait, moi, ce que j'ai vu à Marseille, je n'ose pas croire qu'un entraîneur, en l'occurrence Michel Derzakarian, dise à ses joueurs, après qu'ils aient marqué le but en début de match, hop, revenez derrière, on joue plus, on conserve le but. Ça, c'est impossible. Alors, il y a deux choses. Soit les joueurs sont teubés, ce que je ne crois pas. Ils ne comprennent pas les consignes donc de l'entraîneur. Ok. Comme je disais tout à l'heure, le foot, c'est quand même pas le rugby. Tactiquement, c'est quand même beaucoup plus simple. Soit ils ne sont plus en phase avec leur entraîneur. Non, soit ils ne sont plus en phase avec leur entraîneur et d'une certaine manière, lui font comprendre que finalement, le message ne passe plus et il a beau parler, de toute façon, ils font comme ils veulent. Soit, plus grave, il n'a pas de relais sur le terrain. Les relais, c'est qui ? En premier lieu, Savagnier, capitaine. Après, un par ligne, un défenseur, un attaquant. Enfin, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans cette équipe. Et quand j'écoute Michel Derzakarian, je ne comprends pas. Je ne comprends pas son explication. Il dit, bon, mais voilà, nous, on ne joue pas sur le terrain. C'est quand même lui l'entraîneur, c'est quand même lui qui donne les grandes lignes. Benji. Il est un peu responsable, donc, aussi.
Ouais, là, le problème, c'est qu'il confirme ce qu'on pense depuis un moment. Ça fait un moment qu'on le dit. Il n'est pas forcément, comme tu dis, il n'est pas forcément écouté par ses joueurs.
Ah, mais c'est grave.
Parce que même lui, il te le confesse, quoi. Nous, c'est des analyses qu'on fait, des trucs, mais là, c'est lui qui te le confesse, que des spectateurs de ce que font les joueurs. Et normalement, même quand t'es entraîneur, même si c'est sur le bord, t'es acteur du match. T'es vraiment acteur. Si vraiment, ça fait un moment qu'il nous le dit, Bébert, ça. Si vraiment, ça fait un moment que tu te rends compte qu'il t'écoute pas, que le message passe pas, ben alors là, prends des décisions, fais vraiment des choix, change quelque chose. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça fait après Nice, il nous l'a dit, ça fait 2 mois qu'il nous dit qu'il dit des choses et c'est pas forcément mis en application, il sait pas comment faire.
C'est rare.
Et ça continue. Ah, c'est très rare. Un entraîneur vraiment qui pendant aussi longtemps confesse qu'il n'est pas écouté par ses joueurs, que lui il est spectateur, il subit les choses. Un entraîneur ne doit pas dire qu'il subit un match. Non. Il est acteur du match pour moi. Alors certes, c'est pas lui qui va faire le coup franc, qui va faire le corner, il n'y a pas de problème, mais tout ce travail dans le foot.
C'est pas écouté par moment.
Non, par moment, mais il nous le dit souvent. Mais là, tu vois, à Marseille, et là où je suis, là, je rejoins aussi JB, parce que t'as aussi raison sur le deuxième point. En manque de relais, à Marseille, j'ai vu personne qui a dit, les gars, ressortez. Personne n'a dit ressortez. On s'est arc-bouté dans notre surface. Donc ça, j'ai vu personne qui vraiment a dit, les gars, t'as toujours un grognard. En général, c'est le 6 dans une équipe. T'as un André, t'as des gars comme ça et tout dans toutes les équipes. Un 6 qui te dit qu'il gère le ou comment le bloc se place.
Omiradji qui essaie de le faire quand il est là.
Bécher essaie de le faire quand il est là. Mais c'est vrai que c'est
le dernier arrivé presque, tu vois, en plus.
Dans le ton, après, quand il dit j'espère bien, j'espère tout ça, c'est pas incisif pour moi, c'est pas trop incisif, et je sens que, on le dit depuis un moment, mais je sens qu'il est atteint par la situation, parce que tu sens que même là, c'est le match le plus important de la saison, on le dit tous les week-ends, les amis, mais celui-là encore plus, et tu sens qu'il est pas incisif du tout dans sa prépa.
Baptiste, ton sentiment ?
Moi, mon sentiment, tu vois, je vais même bifurquer et aller un peu plus loin. Tu vois, ce matin, je suis allé à Grammont. Ça faisait un petit moment que j'avais pas été voir un petit peu l'entraînement. C'était ouvert au public. Ce matin, quand je regarde la séance d'entraînement, il y a un petit quart d'heure, 20 minutes de passe-va. Et ensuite, il y a du tennis-ballon. Ça rigole, c'est en dilettante. Je sens pas sur ce matin des mecs qui jouent le maintien, en fait. Tu sens que les mecs rigolent.
Tu le vois sur les vidéos.
Chambre. C'est, je veux dire, à un moment donné, là, il y a plus la place pour rigoler quand tu regardes le classement, quand tu sais que tu joues. Alors peut-être que c'est comme ça que ça se passe dans le monde pro et que le vendredi c'est tennis ballon et c'est détente.
Oui, c'est ça,
mais j'ai pas vu un seul atelier frappe au but. Alors peut-être que c'était hier ou avant.
T'as pas de chance parce qu'ils le font. Être honnête, ils le font à chaque fois qu'on y va voir la conf. Ils font devant le but.
Ben, ce matin, j'espérais ça. Ouais. Et ce matin, j'ai pas vu un seul atelier devant le but.
Il en a pas eu pour son argent.
C'est gratuit. Et en plus, ça pose aussi un problème. Est-ce que ces joueurs sont en capacité physique, et technique, pour appliquer les consignes de Michel Derzakarian? Ça pose aussi ce problème. Alors si c'est un problème physique, c'est quand même un
problème
de la compétition. Et si c'est un problème, s'ils n'appliquent pas les tactiques, c'est un manque de technique et manque de compréhension.
Double réponse de Benjamin Psaume, parce que je le connais par cœur. Il va vous dire que le vendredi, veille de match, c'est un peu plus léger que le reste de la semaine, parce qu'il faut savoir aussi que la semaine de Montpellier, elle est quand même très compartimentée, qu'on travaille différentes choses en fonction des jours. Et il va vous dire aussi que, c'est ce qu'il avait dit la semaine dernière, il ne veut pas voir de légèreté quand on joue le maintien et quand on joue des finales.
En fait, la séance, celle que tu es allé voir ce matin, c'est la séance, on va dire, qui fait plaisir aux joueurs. C'est la séance rigolade. On appelle ça l'entraînement.
Décompression.
Décompression, quel que soit ton classement. Hein.
Oui,
c'est ça qui est malheureux, parce qu'il faut pas dire. C'est la séquence décompression. Oui. Tu sors si tu as envie, tu vas si tu as envie. En plus, on va parler un petit peu bébert. On a eu des échos que la semaine a été un petit peu chaude dans les vraies séances, parce que c'est pas une vraie séance, ça, en fait.
Sûr.
Mais les vraies séances où il y a de l'intensité à huis clos, où il a mis la tactique en place, ça a été un peu chaud. Donc là, deux jours avant le match, tennis ballon, tu chambres, tu paries des trucs, des canettes et compagnie. C'est un petit peu la séance, voilà. Donc je sais que c'est souvent celle qui est ouverte au public, parce que t'es pas le premier. Il y en a plein qui nous l'ont dit, je suis à la Grammont et ils sont en mode kermesse, détente. Là, faut vraiment, moi je sais que c'est comme ça et dans tous les clubs, tu vois, n'importe où, ce sera comme ça.
Ce qui était intéressant, tu vois, ce matin, c'est que c'est quand même le trio des gardiens qui finit en finale et ça en dit long sur la capacité.
Quoi, du tournoi de tennis-ballon?
Ouais.
Ça rejoint souvent ce que je te dis au niveau de la qualité technique, peut-être.
Voilà. Le Comte, il a pas les pieds panés non plus.
Non, tout à fait. Et Berto non plus, visiblement.
Oui, je pense qu'il est plus technique que certains de nos défenseurs.
Ouais. Gilbert à Béziers. Bonsoir Gilbert.
Oui, bonsoir. Oui,
bonsoir Gilbert.
Ah, mais Gilbert est de retour.
Ah, mais oui.
Gilbert, voilà, Gilbert.
Ça y est, ma prothèse est efficace.
Bon, parfait.
Moi, je serai au stade. Hein.
Ah,
Non, mais moi, ce match de Strasbourg me rappelle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le match de la montée en Ligue 1. Et c'était Strasbourg, dernière journée avec Courbis, rappelez-vous.
Bien sûr.
Ouais. Et ouais. Et là, il y a une sacrée ambiance au stade. On était passé par toutes les émotions. Et je pense que ce dimanche, il est impératif qu'il y ait du monde au stade.
Oui.
Parce que c'est ça qui va faire gagner Montpellier. C'est pas autre chose. Hein.
Je pensais que tu allais dire qu'il est impératif que Courbis revienne.
Il y a une petite opération commerciale, d'ailleurs. Une petite opération commerciale pour attirer du monde.
Ouais, moi ce qui me chagrine un peu, c'est toujours pareil, j'avais dit lundi, c'est nos erreurs au niveau recrutement, etc. Quoi. On laisse partir Estève. Moi, je suis persuadé qu'à Marseille, on ne perd pas avec Estève.
Ouais, je ne suis pas sûr.
Mais je sais pas, je le dis.
Ah, on a été dominé dans tous les domaines à Marseille, oui, franchement,
oui,
on a été.
Oui, d'accord, mais quand même, on prend des buts stupides quand même.
Oui.
C'est un redéplacement. Et ça compte.
Notamment les deux derniers.
Je vais rebondir là-dessus, Gilbert, parce que du coup, dans sa prépa de match, Derzac, il va parler de Metz. Parce que Metz, c'est le dernier que tu as reçu, c'est un peu le même profil de match. Oui. Et en fait, par contre, Gilbert, là où je vous rejoins, c'est que si on défend pareil nos trois centraux que contre Metz. Parce que Metz, on a eu un coup de chance incroyable de ne pas encaisser et de ne pas prendre avec Miko Tadze et tout ça. Mais si on défend Paris face à Strasbourg, on va vraiment être puni. Et là, on va avoir une grosse déconvenue. Donc, pour moi, le bas, qui était une force, le passage à 5, on était solide, à peu près solide, ça marchait bien. Mais pour moi, c'est devenu un point faible sur les deux derniers matchs. Parce que pour moi, nos trois centraux, et on ne parle pas que de Falaï. Falaï était là à Marseille, mais contre Metz, il n'était pas là. Nos trois centraux, je ne sais pas ce qui s'est passé d'un coup, mais ils sont en faillite. Je les trouve en faillite. Et contre Strasbourg, ça ne pardonnera pas, parce que si Gamero démarre ou un gars comme ça, s'il a le face-à-face comme Miko Tadze, Gamero, il ne va pas bégayer, il va la mettre au fond. Donc c'est ça ma peur aussi. J'ai failli me remettre en clé du match, mais je l'ai mis la semaine dernière. Je ne vais pas le mettre toutes les semaines. Mais nos trois centraux, qui que ce soit, parce que je pense qu'on va rester à 5, il va falloir vraiment qu'ils se réveillent, parce qu'il ne faut pas laisser l'adversaire avoir autant de situations.
Gilbert, est-ce que vous voulez que je vous rassure ?
Allez.
Oui, moi je ne suis pas du tout rassuré, mais alors pas du tout.
Il en a pour ça.
Ce que vous me dites sur l'entraînement, il n'y a pas de vigueur, enfin bon, chaque fois on le dit, c'est pas ça, mais ça fait des années que ça dure. Mais non, moi ce qui me gêne, c'est que si vous voulez, si vous remettez la même défense qu'à Marseille, mais on ne s'en sortira pas. Ça compte, c'est pas un central.
Mais personne d'autre, Gilbert.
Alors pourquoi ne pas se remettre à 4 et renforcer le milieu de terrain, parce
qu'on va gagner
au milieu aussi.
Voilà. Ça va être l'un des débats.
Parce que, franchement, si vous renforcez bien le milieu de terrain avec un défensif en plus, ça va changer la donne. Hein.
Et ben...
derrière, de toute manière, ça ne marchera pas avec Sako. Il faut le savoir. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a décidé, Zakaria, mais pour moi...
Il nous a dit, vous verrez dimanche.
On verra dimanche.
Ouais, donc il prépare.
On en parlera après, de la compo.
Oui,
on va en parler dans un instant. Ouais. Et Gilbert vient de lancer, en effet, le débat sur Falaï Sako. Vous nous donnerez votre avis dans quelques instants. Dans la deuxième partie de l'émission, on entendra Issia Gassila en longueur sur les derniers mois qu'il vient de vivre. Mais d'abord, écoutez, extrait Issia Gassila sur le maintien, justement, sur l'état d'esprit dans le vestiaire avant de recevoir le Racing Club de Strasbourg.
Aujourd'hui, tout le monde est conscient dans le vestiaire ce qui nous attend. Tout le monde. Et surtout le match qui nous attend dimanche. Tout le monde est conscient pour ce match parce qu'il faut tout faire pour gagner ce match parce que c'est hyper important. Tous les matchs sont hyper importants, mais on va dire le match de dimanche, c'est hyper important pour nous pour gagner ce match et voilà, de commencer à prendre des points.
Le maintien, vous savez ce que c'est parce que vous l'avez joué notamment avec Toulouse. Vous savez ce qu'il faut pour le décrocher. Vous savez dans quel piège il ne faut pas tomber. Aujourd'hui, tout le monde se demande si Montpellier en a vraiment les capacités. Est-ce que vous comprenez d'abord les doutes ressentis par les supporters et par la communauté? Et est-ce que vous devenez en ce moment, avec votre expérience, plus que jamais un leader dans ce vestiaire et dans cette mission?
Ouais, moi j'ai vécu ça à Toulouse et c'est hyper compliqué. Les supporters, ils sont en doute, c'est normal. Et nous, dans le vestiaire, c'est franchement, tout le monde est conscient pour ce maintien. Le maintien, c'est dur. Franchement, c'est dur. Et nous, on croit qu'on va se maintenir. C'est sûr et certain, on va se maintenir parce que c'est l'objectif pour les clubs.
Et vous avez un rôle important, encore plus prédominant en ce moment?
Oui, moi en particulier, c'est de motiver mes amis. Tout ce que je pourrais faire, c'est pour les aider pour qu'on arrive à s'en sortir aujourd'hui.
Voilà, Issia Gassila qui est déterminé. Il symbolise véritablement en ce moment l'esprit guerrier qu'il faut pour aller chercher le maintien. Dans un instant, on va parler de Falaï Sako. On va débattre sur faut-il ou pas démarrer à 4 ou démarrer à 5 et donc remettre Falaï Sako, puisque Baptiste le confirmait tout à l'heure. En effet, Christopher Julien et Béchir Omeradjik sont toujours absents pour ce match-là. On parlera de quelques autres sujets d'ici la fin de l'émission. Vous réentendrez Issia Gassila en longueur. Juste d'abord, Benjamin, puisque ça avait lieu dans nos locaux cet après-midi, le tirage des quarts de finale de la Coupe de l'Hérault. On a les affiches sous les yeux. 8 équipes donc. Jacou Clapier va recevoir Pignan en quart de finale. Atlas Payade recevra Fabregue. Bayargues Saint-Brest se déplacera sur la pelouse de Lattes. Et puis Sussargues ira jouer à Frontignan. Voilà les 4 affiches des quarts de finale de la Coupe de l'Hérault. Votre pronostic?
Il y a des bons matchs. Le Atlas Fabregue est intéressant. Il y a des bons matchs, mais après je ne veux pas en parler parce que je me suis fait sortir il y a un tour avec mon club. Donc,
est-ce que l'équipe est toujours là?
Non, mon équipe s'est fait sortir. Non, ils ont fait sortir le tour d'avant. C'était l'Inter Montpellier.
T'es sorti alors.
Ouais, ça fait deux tours. Ça fait deux tours. Mais c'était déjà bien pour une D3, pour notre niveau, c'était déjà bien. Mais belle coupe de l'Hérault. Peut-être Atlas favori. Peut-être. À voir.
Atlas Payade, en effet, il y a de sacrés joueurs à Atlas Payade. Il y a, attention, il y a Fabreg, il y a Latte, il y a des très belles équipes. En tout cas, je redis une fois le tirage. Jacou Clapier face à Pignan, Atlas Payade, Fabreg, Latte, Bayargues, Saint-Brest et Frontignan, Sussargues pour les quarts de finale de la Coupe de l'Hérault. Le tirage avait lieu dans les locaux de France Bleu Hérault. À tout de suite, 100% Payade jusqu'à 19h.
Ikea. Ce matin, je suis de bonne humeur.
Mais tu vas te taire, oui! Il est 5h du mat.
Oh, pardon, je suis de bonne humeur.
Préparez-vous à bien dormir avec nos prix baissés. Comme avec le matelas ferme Valévague 140 par 200 cm. Désormais à 299€ au lieu de 349. Encore plus de prix baissés en magasin et sur Ikea.fr.
Le projet de contournement ouest de Montpellier prévoit de réaménager les axes existants entre Juvignac et Saint-Jean-de-Védas afin d'assurer un meilleur accès à Montpellier depuis les communes de l'ouest et faciliter la connexion avec les transports en commun. Vinci Autoroute déploie une équipe dédiée à l'information des riverains. Trois agents de liaison sont à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations. Retrouvez les coordonnées de l'agent de liaison en charge de votre secteur sur le site dédié www.contournement-ouestmontpellier.fr.
Votre première ligne de bus tram sera mise en service début 2025 et reliera la place de l'Europe à Notre-Dame de Sablassou en 15 minutes seulement avec un bus toutes les 10 minutes. Le 12 février, le chantier s'installe aux abords du boulevard Philippe Lamour, situé dans le secteur Eureka, entraînant une nouvelle configuration de la circulation. Plus d'infos sur bustram.montpellier3m.fr. Le Bustram, une nouvelle conception du bus.
Un point circulation avec les difficultés habituelles à cette heure-ci. Les entrées d'agglomération, ça bouchonne légèrement. Le rond-point du Pré d'Arennes, du Rieucoulon, du Zénith. Le contournement ouest de Béziers aux abords de Maraussan, difficultés habituelles, rien ne change. Et le quartier Gare à Béziers, le boulevard de Verdun, est très chargé. Musique, et on retrouve tout de suite après 100% Payade et Bertrand Konot, The Bangles, Walk Like an Egyptian sur France Bleu Hérault.
Ici, football.
Voilà, j'aimerais rendre hommage à Loulou, bien sûr, mais évidemment, tout ce peuple payadin, tous ses supporters, cette ville qui était en ébullition en 2012.
Chaque lundi et vendredi dès 18h, c'est 100% Payade sur France Bleu Hérault.
Et je vous l'ai dit tout à l'heure, 4 places à gagner pour Montpellier-Strasbourg dimanche à 15h. Vous appelez Amandine tout de suite au standard 04 67 58 6000. Vous lui dites combien de matchs a joué ici à Gastilla en Ligue 1. Il a atteint cette barre le week-end dernier au Vélodrome. Est-ce que c'était 150, 250 ou 350? 150, 250 ou 350? Vous faites le 04 67 58 6000 et vous donnez la réponse à Amandine au standard et vous gagnez deux fois deux places. Voilà, il y aura deux vainqueurs ce soir, deux fois deux places pour Montpellier-Strasbourg dimanche à 15h au stade de la Mosson. On revient tout de suite sur France Bleu Hérault, 100% Payade jusqu'à 19h avec Baptiste, Jean-Bernard Stern et Benjamin Psaume, notre consultant. On va parler de Falaï Sakho.
Egyptian. Egyptian. Walk like an Egyptian.
Like an Egyptian de Bangles sur France Bleu Héros.
Retrouvez chaque lundi et vendredi dès 18h 100% paillade sur France Bleu Héros.
Et on a deux gagnants qui viennent de remporter les places. On a Christophe à Paupion et Jean-Louis également qui viennent de remporter donc chacun deux places pour Montpellier-Strasbourg. Dimanche à 15h, c'est cadeau. C'est Mathieu Casanas qui régale. Voilà, c'est retiré de son salaire.
On a besoin de voix à la Mosson pour supporter cette équipe. Hein.
Falaï Sakho a essuyé des critiques après Marseille en l'absence de Julien et Omer Hadjik. Faut-il malgré tout continuer? Votre avis, Benjamin Psaume, sur ce cas-là et sur la compo du MHSC?
On est obligé de lier ce choix à la compo aussi, parce que dans une compo à 4, je pense que c'est lui qui saute. Mais dans une compo à 5, moi je le ferai jouer. Je le ferai encore jouer, je vais faire sauter au plafond les amis. Mais pour moi, il n'a pas été aussi mauvais que les deux autres centraux à Marseille. J'ai trouvé nos trois centraux pas bons à Marseille. Contre Metz aussi, il n'était pas là. Alors certes, c'est pas son poste, certes, il fait peur à tout le monde, mais moi, je le laisserai à côté de Kiki Kouyaté. Parce que moi, sur ce match-là, je ferai la même compo, l'interrogation que j'ai. Alors, je vous dis ça, franchement, c'est très dur, comme a dit JB, c'est très dur de savoir les compos avec les absents. Ouais. L'interrogation que j'ai, c'est est-ce qu'il va repartir sur un 5-2-1-2, comme on fait ces derniers temps, ou est-ce qu'on essaye de faire un 5-2-3, qui inclurait qu'on enlève un milieu de notre équipe. Et est-ce que je me relance pas à corps sur ce match avec ce point d'appui et je remets pas Nordin dans sa situation préférentielle et Moussa aussi sur les ailes? Donc c'est ça l'interrogation qu'on peut avoir aussi. Avoir, je sais pas ce que fera le coach, il y a que lui qui le sait et son staff. Mais voilà, concernant Falaï Sakho, moi je le sors pas du 11 après sa prestation à Marseille parce que il a pas été bon, mais comme les autres. Donc je vois pas pourquoi il paierait plus que les autres. Et je pense que en centrale, dans une défense, je réitère, il va pas tomber sur Ndiaye, Aubameyang et Harit qui vont venir dans sa zone. Donc il va essayer de faire son match. Donc moi personnellement, je lui accorde le bénéfice du doute parce que si on sort à chaque fois au bout d'un match des joueurs qui sont pas performants, il y a plus grand monde qui jouerait au côté MHSC parce que souvent ça met forme. Donc voilà, moi je lui laisserai sur ce match-là. Il peut être solide, je pense, dans les duels. Ça va être un match de duel avec des beaux bébés en face. Et je pense qu'il va devoir du répondant dans les duels.
Messieurs, est-ce que vous suivez Benji ou est-ce que vous passez à 4 derrière, avec 3 milieux par exemple, et avec 3 attaquants, JB et Baptiste?
Moi, sur Sakho, je suis un peu circonspect.
On n'a rien d'autre aussi, c'est pour ça que je dis ça. Hein.
Ouais, mais je trouve que sa composition de l'équipe est ambitieuse. Eh bien, avec Adam et avec
Tamari et Nordin.
Je trouve que c'est ambitieux. Et comme tu dois gagner ce match, ça serait quand même une bonne formule, à mon avis.
Bah, juste, je précise une seconde. Perso, dans ma compo d'équipe aussi, il y a un gars que je sors du 11 par contre, qu'on n'a pas parlé, c'est FT. Moi, FT, je le sors du 11 sur un match comme ça et je tente de relancer Château. J'essaie de le relancer. J'avais aimé ce qu'il avait fait en décembre dans les gros matchs. Il a été écarté, je ne sais pas trop pourquoi. FT a été très mauvais aussi à Marseille, ouais. Mais ça fait un petit moment qu'il n'est pas bon.
FT.
Donc en fait, ben, pourquoi pas essayer de me relancer Château sur le côté droit.
Entièrement d'accord avec toi. Je trouve que c'est assez injuste ce qui se passe avec Château parce que je trouve que c'est vraiment et de loin un des meilleurs sur les trois pour moi. Sur les prestations qu'on a pu voir, FT, il n'a pas fait des gros matchs.
Il n'apporte pas plus.
Il n'apporte pas plus de sérénité que ça. Je ne trouve pas qu'il soit très rapide, etc. Est-ce qu'on garde Sakho? Moi, j'ai presque envie de repasser à 4, même si je sais que ce ne sera pas le cas. Sur un match comme ça, je rêverais de voir une équipe qui a le ballon, qui joue haut et qui est ambitieux dans le jeu.
C'est pas incompatible.
Et vu que tu n'as pas ta défense à 5 que tu as l'habitude d'aligner, que tu aimerais pouvoir aligner, je rechangerai le système parce que tu t'adaptes aussi à l'effectif que tu as à ta disposition. Stop le récollage, les joueurs à leur poste, point quoi.
Ouais, mais c'est pas incompatible, Baptiste. Regarde Metz ce que tu fais pendant 20 minutes.
Je suis d'accord, mais regarde.
Tu ne seras pas à 5 contre Strasbourg, tu seras à 3. Et tu vas dire à Silla, Château ou FT, ils vont vraiment jouer beaucoup plus haut qu'à Marseille. Et c'est ce qui se passe contre Metz. Et Silla, il marque parce qu'il est très haut.
Et il est aussi plus à l'aise dans ce registre-là.
J'entends ce que vous dites, mais moi, je commence un petit peu à être fatigué de voir en permanence sur des matchs des joueurs qui ne jouent pas à leur poste parce qu'on a un système à respecter, etc. Au bout d'un moment, on n'a pas les joueurs pour jouer à 5 parce que défensivement, tu n'as pas 3 centraux de métier. Tu changes ta compo et tu joues à 4 et tu joues différemment. Et tu mets Nordin, tu mets Tamari sur les côtés et puis tu t'adaptes à l'effectif que tu as à ta disposition. Tu es à domicile, tu joues une équipe malade, tu es censé.
Recevable, les deux explications.
Oui, non, mais après, franchement, honnêtement, c'est dur à savoir ce ce qu'il va faire. Ouais. Ben, il est dur à savoir.
Il le fera
mais
pas.
Je serais assez, ouais, je serais assez surpris qu'il repasse à 4 avec tout ce qui s'est passé. Je pense que Brest, ça a été une piqûre dans le bras de Derzac. La deuxième mi-temps, il repassera jamais. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Faut être conquérant.
En plus, rappelez-vous Brest, tu te retrouves à changer de système. On était ensemble.
C'est ça, oui, à la mi-temps. En fait, c'est la deuxième mi-temps qu'on fait. Alors, on va me dire, c'était Brest et tout.
L'OGC Nice, entre temps.
Oui, il y a Nice aussi où tu fais ça. Tu en prends 3 en 10 minutes. Tu manques de. Parce que. Falaï ou pas Falaï, il y a 300 trous. Attends, normalement, tu es quand même censé être plus solide.
Oui, non, bien sûr. Voilà. Là, on parle de Strasbourg qui est censé être à 4. Hein,
par contre, peut-être démarrer à 5.
C'est ton championnat.
Démarrer à 5 et peut-être expliquer, parce que le 4-2-3-1, il le maîtrise parfaitement. Expliquer à TJ que peut-être à la 55e, 60e, tu vas repasser en 10. Parce que normalement, tu anticipes les schémas tactiques avant le match. T'anticipes. mais dès que c'est intéressant, il s'enlève. Et tu anticipes. Mais expliquer à mes joueurs avant le match, on part comme ça, les gars, et en fonction de la physionomie, je vous le dirai, je fais. Tac tac sur le côté, et je vous dis, on repasse en 4-2-3-1 parce que t'as même pas besoin de faire changement en plus. Ouais. C'est l'avantage, c'est que TJ, c'est ton facteur, tu mets point de basse ou tu mets plus haut. Ouais. Et donc, tu peux leur expliquer qu'en 4-2-3-1, personne n'est surpris, ça peut surprendre l'adversaire.
Ah oui, comme ils ne respectent pas les consignes, mais ils ne comprennent pas visiblement.
Messieurs,
c'est ça le problème, ça ne marche pas.
Wabi Kazri, Karamo Ferry ou Tamari et son épaule, vous voulez qu'on parle de quoi?
Ah, Kazri, moi je veux bien.
Ouais.
Bon, Kazri, un instant, Wabi Kazri pas dans le groupe lors des deux dernières journées, Metz à domicile, Marseille à l'extérieur, c'était un choix, ça n'était jamais arrivé depuis qu'il avait signé. Écarté, Wabi Kazri, vous en dites quoi? On verra, il n'a pas répondu Michel Derzakarian ce matin, on verra pour le match face à Strasbourg. Vous en dites quoi de l'absence de Wabi Kazri, Benji?
J'en dis que j'essaierai de le relancer, parce qu'en fait tu t'aperçois qu'on a Karamo et Koulibaly sur le banc. Quand je vois à Marseille, on a Karamo et Koulibaly. Et c'est les mêmes profils pour moi. C'est des joueurs très explosifs, rapides, qui vont chercher le duel, alors qu'ils sont pas en confiance aussi du tout. Ils se disent, ils ont dû se dire où c'est qu'on arrive. Mais pour essayer d'apporter une alternative, en plus, c'est encore plus si tu fais démarrer à corps, que j'ai un mec rapide qui peut me faire de la percussion sur le banc et que j'en ai un autre comme Kazri, qui, tu sais, que même s'il est pas bien, sur un coup de patte, sur un truc, il peut te faire la passe D ou il peut te faire le but. Alors, je suis pute, mais au moins qu'on ait différentes cordes à notre arc et qu'en fait, qu'on ait différents profils sur le banc. Parce qu'avoir Karamo et Koulibaly, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu le même profil, donc autant avoir quelque chose dans un profil différent.
Bon.
Ouais, moi j'ai été étonné que Kazri ne soit pas dans le groupe à Marseille, parce que je pense qu'il aurait pu apporter un peu de vivacité, et en plus c'était tout à fait le schéma de match dans lequel il est quand même bien, parce qu'il a encore envie de prouver, et il a besoin de cette ambiance autour de lui.
Ouais.
En même temps, il a
encore
les chiffres.
Envie de prouver.
Oui, non, mais bien sûr, mais je pense qu'il a les chiffres qui parlent, qui sont en sa défaveur. Hein. 5 buts et 2 passes D en 49 apparitions.
Et, oui.
Et donc là, à mon avis, je pense que Kazri, c'est la fin de carrière à Montpellier. C'est la fin de carrière à Montpellier. C'est la fin de carrière à Montpellier. Si.
Il va aller dans les Émirats.
La fin de carrière à Montpellier.
Oui, à Montpellier, bien sûr. Oui, voilà. Je croyais que tu disais sa fin de carrière.
Non.
Le problème, c'est que la saison, elle n'est pas terminée, que tu joues le maintien, et que s'il y en a bien qui l'a joué, le maintien, alors il ne l'a pas eu, mais il l'a joué, il a un peu d'expérience.
Oui, mais alors lui. Il est fatigué. Pourquoi il est sorti?
Moi, il ne m'a pas montré, Baptiste, qu'il avait envie de le jouer avec Montpellier.
Je te dis pas au mérite. Moi, je suis désolé, mais au mérite, si tu me parles de mérite, moi, je vois les deux faux démansarés de Wish, là, les Karamo, pardon, mais. Je suis désolé, mais quand
Karamo et Koulibaly,
ils ont zéro expérience.
Ils abusent.
Et ils explosent. Ils s'auto-explosent eux-mêmes. Quand ils commencent à partir dans leur dribble chaloupé, on s'y perd. Même eux s'y perdent. Ils m'ont pas fait une seule différence depuis.
Moi, j'en veux pas aux joueurs. J'en veux à ceux qui les ont recrutés dans ce contexte-là et qui les lancent alors qu'ils sont pas prêts.
Je te dis pas qu'il faut se passer d'eux. On les a. Ils sont dans l'effectif. Pour l'instant, je suis désolé, mais on a besoin d'expérience, on a besoin de joueurs qui sont capables de varier le tempo, de garder le ballon.
Mais
je pense que Kazri peut apporter ça à la 70e.
À la 70e, Baptiste, à 0-0, tu vas pas avoir besoin d'un mec qui varie, qui gère le tempo. Tu vas avoir besoin de Karamo Koulibaly.
Je suis désolé,
qui mette un peu le bordel dans la défense.
Pour moi, dans cet effectif, même si ses stats parlent pas forcément pour lui, s'il y en a un qui est capable de faire une différence, techniquement, c'est Kazri. Dans sa carrière, il a eu fait. Voilà, il est capable de
faire. Sa carrière, on va pas se mentir.
Mais c'est depuis la Coupe du Monde, Kazri, c'est plus le même, de toute façon.
Je crois pas.
Moi, je crois plus qu'un Koulibaly sera un contre un, que son défenseur un contre un, qu'un Kazri. Contre Metz, il fait une bonne rentrée. Hein, Koulibaly, attention, t'as pas vu quand il fait sa percée et tout, il fait des bons trucs, il a montré de l'envie. Ça dépend les contextes de match. Si tu mènes,
j'ai envie de les voir l'année prochaine, les deux. Voilà, les deux l'année prochaine.
On verra. Mais après, il a raison, Baptiste. N'occulte pas les mansarés de Wish. Je te trouve sévère, parce que je te jure, moi, je taillerai jamais des joueurs parce qu'on les a vraiment mis au front, au feu. Je les juge même pas. Ils sont arrivés, ils avaient pas de club, ils jouaient presque plus depuis un moment.
Aussi, ils sont pas arrivés en terrain connu.
Mais normalement, quand t'arrives au mercato d'hiver comme ça. Ah oui. La faute, oui, non, mais ça faute. Parce que tu les lances, tu leur as dit, allez, Koulibaly, fais-moi direct, t'as pas joué depuis 6 mois, on te met un coup sur le banc, de faire un trait contre Marseille, et après tu me fais que des titus et faut aller à 2000. Bien évidemment, on voit qu'ils ont pas le truc. On leur a dit, quand tu arrives en mercato d'hiver, qu'est-ce qu'on te dit aussi? Je te prends, on a besoin de toi, on met plus un but, j'ai besoin de toi pour jouer. Il y a la déception parce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont pas dans les plans forcément. Donc il y a énormément de facteurs. Donc là où t'as raison, moi je les jugerai la saison prochaine avec une prépa, avec un vrai truc, je les jugerai là. Parce que oui, ils nous montrent pas des
matchs pour te sauver. Tu peux pas t'appuyer sur eux pour te sauver. Pas dans le.
Mais si jamais Koulibaly rentre et qu'il te fait une percée à la 75e, moi je pense qu'il peut le faire. Il va au but, il la met au fond.
Je le souhaite que
tu es trop catégorique pour moi. Pour moi, tu es trop catégorique. Koulibaly, je décèle chez lui des qualités de 1 contre 1 de percussion et on sait jamais ça. Peut te faire. C'est pour ça qu'à la 75e, je le fais rentrer. Vas-y.
Pour finir, messieurs, grand entretien tourné ce matin. Ici, Agassila se confie. Joueur du mois de février au MHSC, la barre des 250 rencontres donc en Ligue 1 attente le week-end dernier. Ici, Agassila revit, nous aussi, avec lui.
Là, t'as après... eu une creux, la bébère, parce que c'est le rayon de soleil de la période.
Après plusieurs mois compliqués.
100% paillade sur France Bleu Héros. Bertrand Queneut.
Bonjour Isiaga.
Bonjour.
Isiaga, vous venez d'être élu joueur du mois de février au MHSC et vous venez aussi de fêter vos 250 bougies, 250 matchs en Ligue 1 depuis le début de votre carrière. Et je dis souffler et du souffle, en fait, vous en manquez pas puisqu'on retrouve en ce moment le Isiaga Silla aux 3 ou 4 poumons sur le terrain. Est-ce que vous vous êtes, Isiaga, déjà senti aussi en forme?
Franchement, je me sens prêt physiquement. Je suis content de retrouver mes formes en avant.
Vous affichez le même niveau de forme, en tout cas visuellement, et de performance que quand vous avez débarqué à Montpellier. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
Ça m'a beaucoup aidé quand même quand je suis parti en sélection. Ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, je me suis mis en travail avec le préparateur physique de la sélection, qui m'a beaucoup aidé avant que je me retourne.
Ça veut dire que quand vous êtes parti à la CAN, vous lui avez dit « Ok, je veux évidemment participer à cette Coupe d'Afrique des Nations, mais j'ai aussi l'objectif derrière de revenir en forme avec Montpellier. Aide-moi, prépare-moi à ça. »
Oui, exactement. J'avais tout prévu ça. Et avant que je parte en sélection, bien sûr, tous les Africains aimeraient d'aller en sélection. Mais de ne pas oublier aussi pour le club, parce que c'est le plus important aussi. Et quand je suis parti, j'avais déposé toutes mes plannings, d'essayer de m'aider pour être prêt physiquement, pour préparer tout ça.
Avant ça, vous aviez été beaucoup, Isiaga, pénalisé par des pépins, ça vous handicapait, ça vous atteignait, j'imagine, au niveau du moral. Est-ce que c'était dû au fait que vous n'aviez quasiment pas coupé depuis votre arrivée? Vous aviez joué dès janvier, tous les matchs titulaires, et ensuite avec des vacances qui ont été très écourtées, vous n'avez jamais eu le temps de souffler?
Oh, franchement, ça aussi, ça a beaucoup joué sur moi. Comme j'ai toujours dit, j'ai pas eu de vacances. J'ai fait qu'enchaîner les matchs depuis à Toulouse. Donc, du coup, jusqu'à mon arrivée ici, je suis parti en sélection, j'ai jamais eu de vacances. Ça a beaucoup joué sur moi. C'est pour ça, des fois, je n'arrive pas à accélérer, j'avais un peu mal. Et c'est pour ça que j'étais un peu blessé aussi.
On avait tous l'impression que vous étiez une machine, mais vous êtes un homme finalement.
Ouais, franchement, c'est. Même moi, des fois, je me demande, mais après, c'est toujours la priorité de chez moi, c'est le travail. Quand je travaille, je me suis dit, quand je travaille, je serai prêt physiquement.
Avant la Coupe d'Afrique des Nations, Isiaga, vous avez raté quelques matchs à cause des blessures. Et certains ont pu penser que vous étiez en train de tricher avec le club. Vous avez été taxé de tricheur par certains. Est-ce que ça vous a blessé?
Franchement, ouais, ça m'a un peu blessé. Jamais je triche pas. Ça c'est un. Je triche pas à l'entraînement. Tout le monde sait, mes coéquipiers, même les coachs, tous ils savent. Même quand je suis parti en sélection, j'avais suivi le protocole du club parce qu'ils m'ont dit de ne pas jouer le premier match et tout. Sinon, tout le monde aimerait jouer le premier match contre Cameroun. Je n'ai pas joué le premier match contre Cameroun parce que je sais que j'étais blessé. Même avant le match amical contre Nigeria, j'ai même pas joué le match amical contre Nigeria parce que je sais que c'est un risque de jouer. Parce que je suis blessé, j'ai loupé deux matchs en sélection. Et après, ben voilà, quand je me suis senti prêt physiquement, et voilà, j'avais commencé à jouer.
Vous n'êtes donc pas un tricheur ?
Non, non. J'aime pas tricher sur le terrain. Ça a été dit comme ça, mais je comprends aussi, mais je suis pas tricheur.
Et puis en même temps, ici, il y a la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations et la Guinée. C'est ultra important. La CAN pour les joueurs africains, la Guinée pour vous. Et on comprend que ce soit important. Mais le grand public ne perçoit pas toujours l'importance que ça revêt comme compétition pour un joueur africain.
Les joueurs africains, tout le monde aimerait jouer pour son pays. C'est quelque chose qui fait partie de notre carrière parce que c'est hyper important d'assister à la compétition. Moi, en particulier, j'aime jouer pour mon pays. Voilà, j'aime jouer pour mon pays, mais sans oublier pour mon club aussi, parce que voilà, c'est le club qui on va dire le plus important aussi.
Pourquoi? Parce que c'est le club qui paye.
Ouais, c'est le club, voilà, c'est qui m'ont payé. C'est grâce à eux aussi, ben voilà, je serai en sélection. Parce que si j'avais pas de club, je serais pas en sélection. Donc du coup, je vais dire c'est grâce à eux aussi. Aujourd'hui, je serai en sélection en équipe nationale.
Est-ce que vous pensez, Isiaga, qu'il y a aussi une forme de patriotisme beaucoup plus fort pour les joueurs africains que pour les joueurs européens, par exemple, et que c'est aussi pour ça que l'attachement au pays est très fort et que c'est aussi pour ça que la relation avec la sélection est si importante?
Ouais, franchement, la relation avec la sélection, c'est hyper important. Surtout nous, les Africains, franchement, c'est hyper important de jouer pour ton pays, de représenter pour ton pays, surtout en Afrique, comme la compétition que nous aussi on dit, particulièrement notre Coupe du Monde, voilà. C'est quelque chose qui est hyper important pour nous.
Et puis vous, Isiaga, la Fédération guinéenne, elle vous a beaucoup soutenu quand votre papa est parti en 2019. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous êtes extrêmement reconnaissant, voire peut-être même redevable?
Franchement, ils ont beaucoup fait pour moi. Mon père, quand mon père il est décédé, ils étaient là pour moi. D'ailleurs, ils ont tout pris en charge, même si je voulais le faire, mais ils ont tout pris en charge. Et idem que ma mère aussi. Quand ma mère, voilà, elle aussi, elle est décédée. Ils ont fait pareil. Ils ont pris en charge, voilà. Ils s'étaient déplacés pour revenir chez moi et voilà, de prendre en charge tout et tout. Et franchement, ça m'a vraiment touché. Donc du coup, c'est quelque chose que je vais jamais oublier. Voilà, que je vais jamais oublier parce que ils étaient là pour moi le moment difficile.
Votre maman, elle est décédée, on s'en souvient, l'année dernière, au cours de la deuxième partie de saison. Vous étiez à Montpellier, on jouait contre Nantes. On se souvient tous, évidemment, des images extrêmement émouvantes de vous sur la pelouse avec vos partenaires. Est-ce qu'on peut imaginer aussi, Isiaga, il y a eu les pépins physiques, mais que moralement, peut-être qu'il y a eu un contre-coup aussi, parce que vous n'avez en effet jamais coupé, que vous avez subi cet événement au cours de la deuxième partie de saison. Et est-ce que ça a pu jouer sur votre morale, sur votre nervosité, psychologiquement?
Franchement, oui. Là, ça a vraiment joué sur moi. Physiquement, ça c'est un. Mental, je vais dire comme ça aussi. Et voilà, parce que je m'attachais beaucoup à ma mère. Franchement, ça a beaucoup joué sur moi. Et le moment d'oublier tout ça, c'était hyper, hyper compliqué pour moi. Et voilà, donc du coup, quand je suis parti en stage, ça, j'ai pensé toujours à ça. Parce que j'aime trop ma mère et c'est quelqu'un qui était là pour moi.
Et aujourd'hui, comment ça va moralement?
Ouais, franchement, grâce à ma famille qui essaie de me faire oublier tout ça, qui sont là pour moi, qui me soutient.
Il y a quelques mois, j'ai discuté avec Alain Casanova, votre premier coach, qui vous a fait signer votre premier contrat professionnel à Toulouse. Vous avez débarqué de Conakry, vous aviez 18 ans, vous étiez très jeune. Et Alain, il m'a dit ça, il m'a dit, il a d'autant plus de mérite, Isiaga Sylla, qu'il a eu un parcours très difficile, une vie très difficile au départ, une vie de famille aussi compliquée. Qu'est-ce qu'il veut dire en disant ça?
En fait, c'est par rapport à la famille. Ma famille, tout le monde comptait sur moi.
Vous êtes devenu très jeune le pilier de la famille.
Exactement, je suis le pilier de la famille. Donc du coup, c'est pour ça, lui, il a parlé de ça.
Vous avez été envoyé en Europe et il fallait réussir.
Exactement, c'était mon seul objectif d'être professionnel, de réussir ma carrière.
Est-ce que c'est ce parcours et tous ces coups durs que vous avez subis qui vous ont rendu si humble et si discret? Vous êtes très discret et très humble.
Franchement, je suis comme ça. Je suis comme ça depuis tout petit. Je suis discret. Avant de faire quelque chose, d'abord, je demande ma mère. Parce que, comme je l'ai toujours dit, elle était là pour moi. Le moment difficile. Et aujourd'hui, voilà, elle n'est pas là. Mais je sais que là où elle est aujourd'hui, toujours, elle me regarde. Elle est fière de moi. Parce que je lui avais promis que ben voilà, je vais devenir quelque chose.
Suivez toute l'actualité du MHSC, le club de foot de Montpellier.
18h56. Moussa Tamari dans Midi Libre ce matin pour finir Benji. Grand entretien, il évoque notamment sa blessure à l'épaule qui fait couler beaucoup d'encre et il confie qu'elle est douloureuse, que les médecins bossent dessus au quotidien. Il dit aussi que s'il tombe dessus, c'est l'opération et qu'il faudra 2 à 3 mois pour que la blessure disparaisse. Certains avaient mal compris ou ont fait semblant de ne pas avoir compris ce qu'on avait dit. Il se blesse en sélection, je rappelle, il revient avec le bras en écharpe, photo à l'appui. Ceux qui s'occupent de lui à Montpellier sont catastrophés. Des échos qu'ils ont en fin de semaine à ce moment-là, puis Tamari revient. Nouveaux examen plus rassurant, mais on voit et on l'entend aujourd'hui, la situation est loin d'être rose. Est-ce qu'il a raison de le révéler, Moussa Tamari, ou est-ce qu'il aurait dû faire de la langue de bois à Maxime Reynaud, qui lui a raison de poser la question, n'importe quel journaliste l'aurait fait, et c'est normal, les réseaux sociaux, les gens, les suiveurs, les observateurs, les spectateurs, tout le monde, nous aussi on est avide d'infos tout le temps, on en veut toujours plus et on nous en demande toujours plus, mais parfois, ouais, y en a qui sont pas contents quand y en a trop.
Oui,
au-delà de la question qui est légitime, est-ce que la réponse est judicieuse?
Bah, dans tous les cas, de toute façon, après je pense que Moussa Tamari, il n'a pas les codes de la communication habituelle. C'est quoi, c'est des applaudissements, ça? Non, d'accord, je crois. Il n'a pas la communication habituelle, il n'a pas les codes, mais après, j'ai vu la pseudo-polémique, la petite polémique aujourd'hui. Ne pensez surtout pas que c'est parce que Moussa Tamari va dire qu'il a mal à l'épaule que Strasbourg, Metz ou les autres clubs ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, de comment il est revenu de la Coupe d'Asie. Tout se sait, bien évidemment.
Ils ont vu, il a retiré.
Mais il n'y avait pas besoin de voir. Avant qu'il enlève le maillot contre Metz, t'avais les 18 clubs de Ligue 1 qui savaient très bien que Moussa Tamari revenait blessé. Ils ont des gens qui sont pour ça dans les clubs. Ça parle, ça discute, le milieu est connu. Ils savent très bien. Donc, il a dit, mais vous inquiétez pas, ils sont tous au courant. J'étais inquiet, moi, dès le premier match où il est revenu quand il tombe. Et on vous l'a dit, c'est la situation du MHSC qui fait qu'il est là avec nous. Mais sinon, il serait pas là, il serait au repos. Mais on a cette crainte-là à chaque fois qu'on le voit tomber. C'est ce que je dis, on a cette crainte-là, mais sinon, c'est opération.
Et on prend le risque, en effet, malheureusement. On verra, ouais, on espère.
Ouais, malheureusement, sauf s'il marque ce week-end.
À la limite, on a vu à Marseille que le risque, oui, est pris. Ouais. Et de manière judicieuse, ils ont du pif puisqu'il a marqué.
Bon. Dans l'ensemble, il n'a pas trop été ciblé, je trouve.
Merci beaucoup, Benjamin Psaume, Jean-Bernard Stern et Baptiste. Merci à Amandine Standard. Merci à Mathieu Cavanas d'avoir réalisé l'émission podcast FranceBleu.fr. Merci au message sur Bleu Payade. J'ai pas pu tout lire encore une fois.